Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans Qui c'est le plus fort, nouvel épisode d'actualité, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, normalement, l'Euro devrait débuter ces jours-ci. L'Euro 2020, il a été repoussé en raison de la crise du coronavirus, mais nous, on est un peu nostalgiques parce que déjà, on n'aura pas la compétition. On a eu envie quand même de parler d'Euro et évidemment des championnats d'Europe. Alors, on se pose une question toute simple, toute bête. Qui est le plus beau des champions d'Europe? Qui est le plus fort des champions d'Europe depuis le début de la compétition, c'est-à-dire en 1960? Pour discuter de ça, on est avec Chérif Guémour, journaliste à SoFoot. Salut Chérif.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Tout va bien?
Ça va.
Et on est avec Laurent Verne, plume d'Eurosport, vous le connaissez bien. Salut Laurent, comment ça va?
Ça va très bien, salut Maxime, salut Chérif et bonjour à tous.
Pour retrouver cette émission, vous allez évidemment soit sur le site eurosport.fr, soit sur les bonnes plateformes de podcast, Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et surtout, vous nous mettez une petite note, un petit 5 étoiles, parce que comme ça, ça nous permet de remonter et ça nous permet aussi, ça vous permet surtout de nous trouver plus simplement dans les semaines à venir. Alors, on va démarrer tout de suite, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Chérif, pour toi, qui est le champion d'Europe ultime?
Alors, on ne va pas dire le plus beau, mais peut-être la meilleure. La RFA 1972, alors c'était la RFA à l'époque, l'Allemagne de l'Ouest, parce qu'évidemment il y avait les deux Allemagnes, parce que c'est d'abord la montée en puissance de la grande équipe d'Allemagne qui sera la seule à pouvoir battre les Pays-Bas en 1974. C'est un peu dans la bonne tradition du football allemand, on a l'équipe matrice de cette Mannschaft, c'est le Bayern de Munich, avec six joueurs de cette équipe du Bayern de Munich, avec vraiment le bloc munichois qu'on connaît bien, c'est-à-dire Maier dans les buts, Schwarzenbeck et Beckenbauer en défense centrale, Breitner à gauche, Hoeneß et évidemment le numéro 9, Der Bomber, Gerd Müller. Et c'est une équipe qu'on attendait et c'est une équipe qui va au bout. C'est un peu à la même époque, tu vois, il y avait Eddy Merckx en cyclisme, c'est le cannibale, tu vois, tu sens venir la grosse équipe. Tu sens que tu n'as pas grand-chose à faire et qu'elle va te laminer, et c'est ce qu'elle a fait en fait. Alors au niveau de la beauté, je n'irai pas jusque-là, mais en Allemagne, c'est considéré comme l'une des plus belles Mannschaft, peut-être la plus belle, parce qu'il y avait pas mal de joueurs assez techniques, comme Günther Netzer, voilà, quoi, des joueurs comme ça. Il y a eu d'autres grandes équipes d'Allemagne après, mais aussi puissantes et aussi sûres d'elles-mêmes, je pense qu'on n'a pas fait mieux.
C'est une Allemagne un peu méconnue parce qu'on a l'impression qu'elle est passée derrière, il y a eu 74. Et il y a même le Bayern finalement qui a un peu effacé, on va dire, ce début de domination dans les années 70.
Voilà, c'est la montée en puissance. Donc, ils avaient été finalistes à la Coupe du Monde 66. Ils finissent troisième à la Coupe du Monde 70. Et on commence à voir apparaître ces noms-là. Hein. Je les répète, hein, Beckenbauer, peut-être le plus grand libéro de tous les temps. Gerd Müller, l'un des plus grands buteurs de tous les temps. Sepp Maier dans les buts. Et puis, voilà, Breitner qui joue déjà une forme de football total parce que c'est un latéral gauche, mais il vient toujours dans le cœur du jeu, il vient toujours rajouter un peu le surnombre. On est déjà dans la modernité, la puissance, le mouvement. Et une fois de plus, si on veut comprendre pourquoi la grande Hollande hein, de 1974 n'a pas été championne du monde, c'est parce qu'en face, il y avait cette équipe qui était des joueurs qui jouent ensemble depuis un petit bout de temps déjà. Et c'est une montée en puissance qu'en fait, même les Pays-Bas n'a pas pu contenir.
Alors, Chérif, ouais, pardon, j'ai une petite question pour Chérif. Ouais. Cette génération allemande, c'est en fait un petit peu l'inverse de France 98-2000. La France a été d'abord championne du monde, après championne d'Europe.
Ouais.
La RFA, c'est l'inverse, championne d'Europe en 72, championne du monde en 74. Est-ce que ça n'a pas un petit peu justement éclipsé la performance de cette équipe de 72, qui était encore peut-être en transition entre la déception relative, mais déception quand même de l'élimination en demi au Mexique en 70, et le titre mondial à domicile en 1974. Donc finalement, est-ce qu'elle n'est pas un peu oubliée de l'histoire, cette équipe-là, avec
une certaine pas en Allemagne. Pas en Allemagne. En Allemagne, on a conscience que ça a été, une fois de plus, l'équipe qu'on attend et qui finit par gagner, là, mais qui gagne vraiment, c'est son premier Euro aussi, hein, historiquement. Et puis, surtout, on arrive à voir que autour de cette équipe du Bayern qui monte aussi en puissance, hein, parce qu'elle va gagner trois Ligues des Champions, hein, en 74, 75, 76, on arrive à, comment dire, à agglomérer le meilleur du football allemand, c'est-à-dire on sait prendre les meilleurs de Mönchengladbach et puis des autres équipes, Francfort, Düsseldorf, et il y a déjà cette intelligence à ouvrir juste ce qu'il faut pour bien encadrer le noyau dur du Bayern de Munich. Et surtout, c'est une équipe qui est très technique. On a un peu l'impression que, bon, on a les gros bourrins, et évidemment, il y a une tradition du physique en Germanie qui est incontestable. Mais à côté, il y a des manieurs de ballon comme Breitner, Beckenbauer, et puis Overath aussi. Bon, Overath, il n'est pas là en 70, il n'est pas à la finale. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est un mix à la fois de puissance, de mouvement et de technique. Et une fois de plus, quand tu affrontes cette équipe, tu sais que tu n'as aucune chance. Donc, quelque part, l'efficacité, c'est un mot que j'aime pas trop, mais en sport, c'est ce qui révèle aussi les vrais champions. Tu vois, on attend Usain Bolt sur le 100 mètres et c'est une Bolt qui gagne. J'ai parlé d'Eddy Merckx à l'époque. Bon, ben voilà, c'était ces sportifs très forts qu'on attend et qui gagnent. Et évidemment, après, il y a la marche supérieure, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Où, là, pareil, quoi, ils ont laminé. Ils ont eu un début un peu dur, mais après, ils ont tracé, quoi.
Mais sauf qu'en 72. Tu fais une comparaison avec Eddy Merckx et je comprends très bien pour toi pourquoi, mais en 72 finalement c'est une équipe qui avant 7 euros a eu du mal à aller au bout. Ils avaient perdu la Coupe du Monde 66, la finale contre l'Angleterre, l'élimination après ce match fabuleux contre l'Italie en 70. Donc le mythe de l'Allemagne qui gagne toujours à la fin, il avait besoin de...
Ah non, là on n'est pas encore, le mythe il n'est pas encore installé, mais il va s'installer après 74. Mais quand tu regardes en 66, ils perdent très peu. Je viens de relire une interview de Beckenbauer, il dit bah ouais, on perd en prolongation sur un but un peu litigieux. En 70, bah, tu connais le match, hein, tu vois, c'est voilà quoi, ils sont surprendre 4-3 après prolongation, un match dantesque. Je veux dire, ils ne sont pas surclassés. Donc, c'est. Non, après, bon, ils ont quand même une Coupe du Monde à leur actif en 54, mais qui est tellement lointaine qu'à la limite, on l'a oublié. Mais genre, à partir de 72, la dynamique de la victoire s'installe. Et très peu de temps après, dans la foulée, les clubs allemands commencent à moissonner des Coupes d'Europe avec Mönchengladbach, ouais, en Coupe de l'UEFA, et Bayern de Munich. Une fois de plus, ils ont gagné trois Ligues des Champions. C'est. Après, ils font finaliste de l'Euro. Tu vois ce que je veux dire ? L'Euro d'après,
oui, ils s'installent en 80. Ah, c'est l'installation.
C'est l'acte fondateur. Quoi.
Voilà, c'est ça, l'acte fondateur. Ouais.
En 72, ils battent l'Union soviétique en finale et ça fait un peu un point commun justement avec la deuxième équipe qu'on va défendre, Laurent notamment. Les Pays-Bas, 88, les Pays-Bas qui avaient aussi un amour particulier pour le maillot allemand, avec Ronald Koeman notamment, mais pour d'autres raisons. Donc pour toi, Laurent, l'équipe, le champion d'Europe ultime, c'est les Pays-Bas 88 de Marco van der Velde.
Merci pour le lancement, Maxime. Ouais, ce sera les Pays-Bas 88. Honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de choix possibles. Moi, sentimentalement, j'aurais eu envie d'aller vers l'équipe de France de 84. Parce que, pour une raison toute bête, c'est d'abord que c'est le premier Euro dont j'ai souvenir, que j'ai vécu, et parce que c'était le premier sacre international du football français. Mais je trouvais qu'en 84, si Platini, pour moi, c'est la plus grande performance individuelle dans un championnat d'Europe, et même peut-être dans une phase finale Euro et mondial compris. Autant au plan collectif, je trouve que cette équipe, elle était très forte, mais la concurrence en 84, pour moi, me paraît un peu plus faible que ce qu'elle était en 88 pour les Pays-Bas. Il n'y avait pas l'Italie championne du monde en 84, l'Allemagne perd au premier tour, l'Angleterre n'est pas là. Donc, il y avait des très bonnes équipes, comme le Portugal, le Danemark, mais qui étaient des équipes finalement moins expérimentées que la France, qui était pourtant pas, qui était encore une nation assez jeune à ce niveau-là. En 88, pour moi, c'est le contraire. Vraiment, les Pays-Bas, il y a tout le monde. L'Allemagne est à domicile, c'est quand même pas rien. L'Italie est de retour. L'Angleterre est là, l'URSS qui est probablement peut-être la meilleure équipe à ce moment-là en Europe, quand l'équipe de France commence à vieillir et à disparaître de la circulation après le Mondial mexicain en 86. Et les Pays-Bas, eux, qui reviennent, hein, ils n'ont pas été présents dans une phase finale depuis 78, ou peut-être qu'ils étaient à l'Euro, 80, je ne sais plus.
Non, ils étaient là en 80.
Ils sont mais bon, ça fait quand même 8 ans qu'ils n'ont pas participé à une phase finale majeure. Et cette équipe, pour moi, ben, c'est marrant parce qu'il y a quelques points communs avec la RFA 72, notamment sur l'ossature. Il faut se souvenir qu'en 88, quand les Pays-Bas arrivent à l'Euro, le PSV Eindhoven a été champion d'Europe, a gagné la Ligue des Champions. Alors, ce n'est pas le plus grand champion d'Europe de l'histoire, celui-là, clairement pas. Mais il y avait quand même un côté machine, une équipe ultra efficace, Van Brocklen dans les buts, Koeman. Il n'y avait pas de faiblesse. Quoi. Et puis, évidemment, il y avait le trio magique qui sera le trio de l'AC Milan avec Van Basten, avec Rijkaard, avec Gullit. Et pour moi, voilà, cette équipe, elle allie à la fois une forme de rouleau compresseur, d'efficacité un peu froide par moment qui pouvait manquer, qui a pu manquer aux Pays-Bas des années 70, et quand même une extraordinaire qualité de jeu avec le lien Rinus Michels entre la génération 70 et la génération 88. Et puis je trouve le parcours magnifique. Il est à la fois, il y a du grand football, à la fois c'est compliqué parce qu'ils perdent le premier match contre l'URSS, ils battent l'Angleterre avec le hat-trick de Van Basten, mais derrière ils se qualifient à l'arrache contre l'air avec le but un peu bizarre de Vinkieft à moins de 10 minutes de la fin. Donc rien n'est simple pour cette équipe-là jusqu'à la finale, je dirais, qui est vraiment beaucoup plus maîtrisée. Mais en demi contre l'Allemagne, c'était un peu à l'arrache aussi, et j'aime cette dualité-là un peu dans leur parcours, c'est-à-dire de la grinta et puis un football quand même exceptionnel.
Et puis il y a évidemment le point final de cette finale, de cette équipe du Pays-Bas, c'est évidemment, pour les plus jeunes, ceux qui ne l'ont pas vu, aller sur YouTube, voir taper Van Basten URSS, ce but qui est complètement exceptionnel, qui est unique dans l'histoire du foot, j'ai envie de dire, cette reprise de volée dans un angle absolument fermé qui magnifie encore plus le parcours.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que si Van Basten ne met pas ce but, il gagne 1-0, parce que Gullit avait marqué en première mi-temps, et le résultat est le même. En revanche, l'empreinte dans la mémoire est peut-être pas tout à fait la même. Et c'est sûr que ce but, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, pour utiliser un poncif, mais c'est un peu ça. C'est pas un but forcément décisif, mais c'est un but tellement extraordinaire. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'en reparle avec des gens, parfois, dans la mémoire collective, c'est resté le but qui a offert le titre aux Pays-Bas, alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais oui, c'était extraordinaire ce but, c'est un geste dingue. Voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est un peu le symbole du mélange entre le talent, la classe même, et une certaine efficacité.
Chérif, toi, ton regard sur cette équipe des Pays-Bas 88, toi qui as bossé sur sur Cruyff et justement Rinus Michels et tout ça.
Oui, mais c'est alors il y a un premier tour un peu difficile parce qu'il fallait bien amalgamer les joueurs, puis surtout Van Basten ne part pas titulaire, hein, au départ. Je crois que c'est Kieft qui est choisi. Ouais. Bon, évidemment, comme l'a rappelé Laurent, le triplé contre l'Angleterre l'installe définitivement pour le reste de la compétition. Et je suis d'accord avec toi, Laurent. Il y a le but de Van Basten. Alors, on peut le revoir au ralenti. Ah ouais. On ne sait toujours pas comment il l'a mis. Et c'est vraiment. Et c'est, alors pour moi, c'est le plus beau but que j'ai vu en direct, hein, de ma vie, hein, en direct. Hein. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier non plus le but de Gullit, Laurent. Ouais,
le coup de pétard de la tête
de Rijkaard. Et voilà, quoi, c'est une très très bonne finale. L'URSS, comme tu l'as dit, c'était bon, évidemment avec une grosse matrice Dynamo Kiev. C'est la finale qu'on attendait. Il y a une demi-finale contre l'Allemagne. Il fallait quand même gagner, battre les Allemands chez eux. Hein. Et puis voilà, et puis après, il y a Gullit, c'est au niveau du symbole, c'est un beau métis avec des dreadlocks et qui soulève la coupe, et les larmes de Rinus Michels. Enfin, il a pas vraiment pleuré, mais bon, il a rappelé ses souvenirs lointains de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'évidemment, on peut pas faire abstraction de ça. Et je sais que dans le peuple néerlandais, à partir de ce moment-là, n'a plus haï l'Allemagne, parce qu'il y avait vraiment une haine par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et là, à partir de ce moment-là, les relations entre les deux pays se sont apaisées, pour le meilleur.
Voilà, il y a le symbole aussi de gagner 7 euros en Allemagne, là où ils avaient perdu la finale de la Coupe du Monde.
Au même endroit.
Au même endroit, exactement, c'est assez formidable. Ah, moi, j'ai une question pour vous deux, messieurs, justement sur les Pays-Bas.
Moi, je suis né, on va dire, footballistiquement, juste après cet Euro-là, donc dans le mythe des Pays-Bas. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose, finalement, de, pas d'inaccompli, mais qui manquait quelque chose. Et c'est la Coupe du Monde 90 avec l'élimination en huitième de finale. Pour vous, pourquoi cette équipe n'est pas allée encore un peu plus haut?
Non. Je pense qu'en 90, d'abord, il y avait peut-être un petit peu moins de faim, je ne sais pas. Hein, après un titre comme ça, ce n'est pas évident. Je pense aussi que pour ce qui est des Milanais, ils sortaient de deux saisons très, très, très remplies avec l'AC Milan, le titre européen en 89 et en 90. De mémoire, je crois me souvenir que Van Basten, Gullit n'étaient pas au top dans cette Coupe du Monde 90. Et quand tes joueurs majeurs ne sont pas au top comme ça, c'est quand même compliqué. Après, ils avaient eu un premier tour aussi très, très difficile en 90. Ils étaient tombés dans un groupe extrêmement homogène qui ne leur avait pas simplifié la tâche. Et puis, je crois qu'en huitième de finale, ils sont tombés sur une équipe allemande qui, tout simplement, était meilleure qu'eux cette année-là et qui avait aussi une vraie soif de revanche hein, après l'élimination en demi-finale en 88 contre les Pays-Bas. Donc voilà, c'était pas une fin de cycle, mais je crois que les pièces du puzzle étaient moins en place qu'en 88 où il y avait vraiment tout pour que cette équipe exprime son plein potentiel.
Avec ce tirage au sort qu'ils envoyaient sur l'Allemagne, parce qu'ils étaient à égalité parfaite face à l'air, il a fallu les départager à la pièce et c'est exceptionnel. Une très belle Coupe du Monde 90, n'est-ce pas, Laurent?
Et je voulais ajouter juste un petit truc, c'est que si j'ai choisi les Pays-Bas 88, c'est aussi parce que je voulais parler d'un champion d'Europe de cette époque-là, avec une phase finale seulement à 8 équipes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas plus facile d'être champion d'Europe aujourd'hui, mais tu as quand même un premier tour qui souvent est un peu plus abordable quand tu es tête de série. Donc c'était différent, c'était autre chose, mais je ferai un petit parallèle avec ce qu'on peut avoir en tennis, par exemple, entre un Masters 1000 et un Grand Chelem. C'est pas moins facile de gagner un Masters 1000 ou un Grand Chelem, mais en Masters 1000, bah, tu peux jouer le 16e mondial, le 17e mondial dès le premier tour, ce qui n'est pas possible en Grand Chelem où les gros sont un peu protégés. Bah, l'Euro 88, c'était un peu ça, quoi. Tu vas dans demi-finale, il faut jouer l'URSS qui était monstrueuse, l'Angleterre qui était encore une vraie référence, et le Danemark, même si non, le Danemark, je dis n'importe quoi, ils étaient l'Irlande. Et de l'autre côté, tu avais Italie, Allemagne, Espagne et Danemark. Ouais. Donc, il y avait un niveau qui était extraordinairement homogène. Et pour moi, c'est le championnat d'Europe à 8 qui était le plus dense en termes de qualité et de niveau. C'est pour ça aussi que je voulais parler de cette équipe-là.
Alors, tu me fais la transition avec mon équipe, puisqu'on est arrivé maintenant à des championnats d'Europe à 24 qui sont évidemment trop ouverts. On a des parcours, on a vu celui de l'équipe de France en 2016 où jusqu'en demi-finale, il n'y avait pas un point de groupe. Moi, j'ai envie de parler d'une équipe qui a gagné à 16 parce que c'était une ouverture, mais c'était quand même une ouverture dans une densité. C'est évidemment la France de l'Euro 2000. On a parlé du doublé de la RFA 72-74 dans ce sens-là. L'équipe de France de 2000, c'est la première à faire le doublé dans le sens champion du monde, champion d'Europe. Cette équipe, je vais citer Aimé Jacquet qui la définissait ainsi, il parle d'amalgame de l'imagination, de l'intuition et de la rigueur. C'est tout à fait ça en fait. C'est une forme de continuité de la Coupe du Monde 98 avec cette formidable force défensive. Et là en plus, l'équipe de France de 2000 est vraiment dans la plénitude, la plénitude de son art parce qu'entre-temps, elle a récupéré un certain jeune qui s'appelle Anelka. Henri et Trezeguet ont 2 ans de plus. Et en fait, cette équipe-là, alors, je ne vais pas dire que c'est l'équipe parfaite, mais on est quand même pas loin de ce qui se rapproche d'une armada absolue. C'est-à-dire que défensivement, c'est toujours aussi fort. Au milieu de terrain, évidemment, c'est exceptionnel. On pourrait vous donner les noms, vous les connaissez évidemment avec Zidane. Et devant, vous avez Anelka, vous avez Henri. Et si vous n'avez pas Anelka et Henri, vous avez Trezeguet derrière. Donc, on a quand même une équipe qui est fantastique. Tu parlais de densité tout à l'heure, Laurent. La densité de l'Euro 2000, le parcours de la France, c'est le Danemark en premier. Le Danemark, on sait ce que ça vaut. C'est souvent pas mal. La République tchèque, dont on a oublié qu'à l'époque, elle est deuxième au classement FIFA. Le classement FIFA, on peut le discuter, mais ça donne quand même un rapport de force. Il y a les Pays-Bas, évidemment, pour ce match, pour du beurre. Et évidemment, il y a les trois chefs-d'œuvre. Le quart de finale face à l'Espagne, la demi-finale face au Portugal et la finale quasi miraculeuse, il faut le dire, face à l'Italie. C'est presque le... Alors, au niveau de l'émotion, ça ne gâche rien, l'Italie, mais c'est presque qu'ils mettraient un petit bémol sur le parcours, évidemment, parce que jusqu'ici, les matchs face à l'Espagne et les matchs face au Portugal, en termes d'intensité et de force mentale, c'est pas loin de ce qu'on a vu de mieux avec les Bleus parce que Ils sont souvent contre vent et marée, c'est-à-dire que contre l'Espagne, il y a l'arbitrage de Colina, il y a ce pénalty à la dernière minute, il y a un match complètement fou. Souvenez-vous de Munitis, souvenez-vous de Munitis face à Thuram, c'est très dur. Mais il y a une équipe qui a une force et qui croit en elle. La demi-finale face au Portugal, c'est une équipe qui est menée au score, c'est pas évident. Et bien pourtant, elle va s'accrocher, elle va s'en sortir. Et évidemment, la finale avec ce final complètement fou, qui est paradoxal parce que sur la finale, la meilleure équipe, c'est sûrement l'Italie, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche que cette équipe a une force psychologique pour s'en sortir. C'est pour ça, moi, je pense même que cette équipe est même la plus forte, l'équipe de France la plus forte de l'histoire parce que elle possède toutes ces qualités qui sont liées à son, on va dire, son, entre guillemets, son amour du résultat, de la gagne, parce qu'il faut gagner. Il y a autre chose aussi, il y a une forme de panache, il y a le jeu et il y a une force mentale qui est exceptionnelle et qui, pour moi, la met au-dessus de toutes les autres, pour le coup.
Ouais, et je trouve que par rapport à l'équipe de 98, c'est une équipe qui a ce vécu-là et on sent qu'elle n'a pas peur. En 98, ouais, il y a quand même des matchs où on sent qu'ils sont bouffés par la trouille. Le 8e contre le Paraguay, on se souvient évidemment de la première mi-temps contre la Croatie en demi-finale, ouais, avec le fameux discours de Jacquet dans le vestiaire où il dit tout, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas, ils sont vraiment tétanisés. Et en 2000, je trouve que jamais on ressent ça. C'est-à-dire que tu l'as dit, Maxime, il y a des matchs qui sont… Ils ne gagnent pas 3-0 tous les matchs. Hein. Le quart, la demi et la finale, c'est un peu à la muerte. Mais jamais, en tout cas, de mémoire, j'ai ressenti que cette équipe avait la trouille. C'était compliqué, mais elle avait quand même une forme de certitude en elle. Alors, évidemment, c'est facile de dire ça après la finale, mais pour moi, c'est plus peut-être sur la demi-finale que je ressens vraiment ça, où le Portugal fait, ouais, un très très grand match. C'est probablement le plus beau match d'une équipe de France de cette génération-là. Et malgré tout, ils sont menés, il y a la prolongation, c'est un match très dur, mais j'ai l'impression qu'ils ont une forme de certitude en eux qu'à la fin, c'est eux qui auront gagné.
Et pour l'anecdote, pour en avoir parlé plusieurs fois avec Vicente Lizarazu, justement, lui, il a une position un peu différente, a préféré 98, parce que lui part du principe que 2000, il commence un peu à glisser vers une équipe qui est très confiante. Et il dit, et moi, il m'explique que justement, quand ils arrivent en finale face à l'Italie, eh bien, ils n'ont pas de plan B finalement. Ils savent qu'ils sont forts, ils savent ils doivent leur rouler dessus. Et finalement, ils se retrouvent à un problème qu'ils n'avaient pas imaginé. Et là, ils s'en sortent parce que, comme tu l'as dit, il n'y a plus de trouille. Mentalement, ils sont au-dessus. Alors évidemment, il y a de la réussite parce que 40 secondes de la fin, ils égalisent avec Wiltord et puis il y a le but en or derrière. Mais n'empêche que tout cet acquis, tout ce qu'ils ont construit depuis 2 ans, eh ben, en quelques minutes, ils le ressortent comme un examen. Et dernière chose aussi, on parle aussi de leur force mentale, leur force physique. Ils gagnent leurs 3 derniers matchs. D'ailleurs, même, ils gagnent leurs 3 derniers matchs 2-1. Ça me fait penser un peu à l'Espagne de 2010, dont on a l'impression qu'elle est au-dessus dans le jeu, mais qui gagne 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Il y a ce même parallèle de le score, finalement, les scores ne leur rendent pas tellement service par rapport à ce qu'ils ont donné sur le terrain. Chérif, toi, ton avis sur cette équipe ?
Bah d'abord, rappeler qu'à cette époque, c'est l'Europe du Sud, mais qui domine outrageusement, à part les Pays-Bas, hein, en demi pour une superbe équipe. Mais se taper le Portugal, l'Espagne, le Portugal, c'est une grosse équipe. L'Espagne, c'est énorme, et l'Italie, c'est énorme. On a oublié que c'était les nations du Sud qui dominaient le football européen, tout à fait. La deuxième chose, alors je suis entièrement d'accord avec toi, Maxime, très bonne remarque, le score, le 2-1, c'est le signe des grands champions. Le 1-0, c'est… Mais oui, 2-1, ça veut dire qu'en face, il y a de l'adversité. Et il y avait de l'adversité. C'est-à-dire que tu as marqué 2 buts à une équipe très forte et tu en as pris 1 parce qu'ils sont encore plus forts. Moi, je me rappelle, c'était au niveau tactique, c'était des équipes joueuses, tout ça. Il n'y a aucune équipe qui a fermé le jeu. Je veux dire, l'équipe de France peut perdre, mais elle a gagné. Pourquoi elle gagne ? Parce qu'elle est super forte. Et dans l'attaque, on va quand même rappeler Wiltord. Donc, on a donc Trezeguet.
Je ne vais pas citer Wiltord.
Voilà, ouais. Anelka. On a 4 Cador. Ça veut dire que tu peux mettre… N'importe qui devant et ça va faire la maille. Moi, je me rappelle qu'après la Coupe du Monde, vers 99, je suis souvent allé voir l'équipe de France au Stade de France. Hein, bon, voilà, c'est à côté de chez moi. Et je me rappelle 99 jusqu'à la moitié des années 2000, mais l'équipe de France laminait tout le monde. Alors, j'ai vu des matchs d'éliminatoires, j'ai vu des matchs amicaux, mais c'était une machine. C'est 5-1 contre la Croatie quand même, 5-0 contre l'Écosse. Donc, c'est l'équipe de France la plus forte de toute l'histoire de l'équipe de France, sans conteste. Et alors, du coup, et au niveau de l'appréciation, L'équipe de 98 m'avait laissé sur ma faim. Ils sont champions du monde, il n'y a rien à dire. Et en plus, ils le méritaient pour moi. Mais alors, en 2000, j'ai aimé cette équipe. J'ai aimé la suivre et j'étais content qu'elle gagne.
Il y a un joueur qu'on n'a pas cité, c'est Youri Djorkaeff qui est
devenu,
qui est devenu
sous-estimé.
Un super sub quasiment dans cette équipe. Je crois qu'il ne joue pas la demi-finale. En quart, il marque. Il est entre deux. Donc, il y a vraiment des problèmes de riches qui sont absolus dans cette équipe. Parce que même Pires joue assez peu, il rentre en finale, mais je crois qu'il joue trois matchs, dont un en entier, peut-être je pense contre les Pays-Bas, le match de Koffer. Donc il y a vraiment une espèce de richesse absolue dans cette équipe qui fait que oui, en plus elle est allée au bout, donc c'est assez magnifique pour le coup.
Ouais, je crois vraiment pour moi le mot c'est plénitude, quoi. C'est ce qu'il a qualifié mieux et il y a une sorte d'équilibre parfait entre l'expérience, le vécu d'une grande compétition, de ces grands matchs qui se jouent au couteau, et puis pas encore cette suffisance, ce trop plein de certitudes qu'il y aura après. 2000, ils sont vraiment sur la ligne de crête pour moi. Et c'est vraiment l'équilibre parfait. Et c'est pour ça que, oui, je pense que c'est la meilleure équipe de France qu'on ait vue. Ouais.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que la bascule, elle est après. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un moment dans les éliminatoires, le dernier match face à l'Islande au Stade de France, en octobre 99, il y a quelques minutes où ils sont éliminés. Ils ne vont pas à l'Euro. Donc, ça a été un peu chaotique. Et justement, ils sont toujours un peu obligés de se remettre en cause. Il n'a jamais le fil. Les deux ans qui vont suivre jusqu'au Mondial 2002, moi, je me souviens notamment, tu parlais, Chérif, du match face à l'Écosse au 5-0. Ce match-là, il arrive 4 ou 5 jours après la grave blessure de Robert Pires. Robert Pires, qui, à ce moment-là, est peut-être le meilleur joueur français sur la saison. Je me souviens que Robert Pires vient à Clairefontaine quand même, vient faire constater sa blessure et dire, bah voilà, c'est triste, mais il y aura d'autres compétitions. Et le mercredi, le leurre, c'est que le maire met Henri à gauche. Et que, comme tu l'as dit, la France marche sur l'Écosse, mais de A à Z, il y a 4-0 à la mi-temps. Et là, on se dit, non, mais c'est pas possible, c'est les Beatles, les mecs, ils font ce qu'ils veulent, ils gagnent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ouais. Et c'est, voilà, la bascule, comme tu dis, la plénitude, c'est avant. Et là, on bascule sur une équipe qui commence à avoir trop confiance et qui pense que tout lui est, pas tout lui est dû, mais que les victoires vont venir à elle. Et c'est une erreur. Et je rajouterai une dernière chose sur Zidane, et qui n'a pas eu quand même de ballon d'or à la fin de cette année 2000, qui est quand même assez dingo. C'est Figo qui l'a eu, il y avait évidemment le coup de boule de Zidane. Et c'est triste parce que notamment au regard de la demi-finale face au Portugal, qui est pour moi le plus grand match de Zidane en équipe de France. C'est pas France-Brésil pour moi, c'est vraiment ça, parce qu'en face, il y avait une équipe qui lui mordait les mollets. Et je trouve que c'est ce qui manquera cette année-là, c'est qu'il n'ait pas ce petit ballon d'or au mois de décembre.
Il vaut mieux gagner l'eau.
Ouais, voilà, c'est un sport collectif, voilà ce qu'on dira. On a cité la RFA 72, on a cité les Pays-Bas 88, on a cité la France 2000. Évidemment, il reste plein de champions d'Europe et j'ai envie d'avoir votre avis, messieurs, sur un autre, évidemment, qui est marquant parce que déjà, c'est la seule équipe à avoir réussi de doubler, à garder son titre. C'est évidemment l'Espagne 2008-2012 avec au milieu une petite Coupe du Monde pour faire bien dans la vitrine. C'est quoi votre regard? Vous la mettez où, cette équipe d'Espagne? Est-ce que vous, justement, vous globalisez 2012 et 2008 ou est-ce que vous différenciez les deux équipes?
Vas-y, Charlie.
Bah, c'est déjà cette sélection, c'est la. Bah, c'est peut-être l'une des équipes les plus dominatrices du football mondial, un peu comme l'a été l'Allemagne à une courte période ou alors le Brésil à un certain moment, quand ils ont gagné leurs trois Coupes du Monde. Et. C'est marrant parce que on a du mal à dégager une individualité. C'est donc c'est bien d'abord le triomphe du collectif. Bon, après, on peut citer Torres, hein, évidemment, les buts, Xavi, Iniesta, Villa aussi, tous les noms qu'on peut. Et en fait, non. C'est toujours cette idée de la Roja. Voilà l'expression la Roja. Je crois qu'en fait, on l'a adoptée pas parce que c'est exotique et on aime bien, c'est parce que c'est un tout. C'est un super amalgame entre les joueurs du Barça, du Real. Et c'est vraiment cette image qu'on va garder. Et évidemment, qui est capable de produire un but fabuleux. Moi, je me rappelle à l'Euro 2012. En fait, on attendait. Et puis finalement, c'est le feu d'artifice en finale contre l'Italie. Hein, c'est le 4-0. C'est beau, c'est magnifique. Et puis... voilà, ça se finit avec quand ils font venir leur môme et tout sur la pelouse. Il y avait quelque chose de joyeux, de fraternel. Mais une fois de plus, moi, je retiens l'image d'une grosse équipe, mais d'un collectif absolument hors du commun.
Et de la même manière, moi, Maxime, pour te répondre, ce qui, j'ai évidemment, je pense comme vous, hésité à choisir cette équipe-là. Mais de la même manière que c'est difficile de ressortir un joueur, c'est difficile de ressortir 2008 ou 2012. 2008, c'est le premier. L'Espagne courait après un grand titre. C'était les poulies d'or du foot international, les Espagnols. Il faut quand même se rappeler ça. Mais je pense que leur c'est la période de domination dans son ensemble, comme disait Chérif, qui est exceptionnelle dans le football actuel et qu'on avait, à mon avis, jamais vu, hein, sur trois compétitions comme ça, consécutives. C'est très, très compliqué. Et 2012, c'est peut-être leur chef-d'œuvre parce que arriver à rester au sommet comme ça, alors qu'ils ont été champions d'Europe et qu'ils ont gagné la Coupe du Monde derrière, ben on l'a vu avec les Bleus en 2002, le fil était de l'envie, de cet équilibre dont on parlait était cassé. Et en 2012, ils sont encore au top et c'est peut-être même là où ils sont plus dominateurs. En tout cas, c'est peut-être leur chef-d'œuvre collectif, mais c'était difficile pour moi de ressortir 2008 ou 2012. C'est un ensemble, cette équipe, sur toute cette période.
Alors moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de les suivre. J'ai fait 2008, 2010 et 2012. À un moment, je pensais qu'à chaque fois que j'allais faire une compétition internationale, l'Espagne gagnerait à la fin. J'avais vraiment cette impression-là. Moi, si je devais quand même en ressortir une, je sortirais la première de 2008. Alors pourquoi ? Parce que déjà, 2012, j'ai regardé tout à l'heure, il y a 12 joueurs qui sont encore là, ce qui est assez énorme. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des joueurs qui ont suivi sur les 4 ans, donc qui ont en partie gagné les 3 titres. Ce que j'aime bien dans 2008, c'est qu'elle est annonciatrice d'une révolution du jeu, parce que voilà, il y a déjà le Barça de Guardiola qui est là. C'est-à-dire que c'est ce dont on va avoir le droit au football de club, à une équipe qui joue au ballon, football de possession. Alors, il manque l'individualité qui est Messi, mais il y a Xavi, Iniesta, donc c'est un peu un préalable. Et comme tu l'as dit, Laurent, c'est une équipe, il faut s'en rappeler, parce que maintenant, c'est facile de parler de l'Espagne. C'est une équipe qui se prend tout le temps les pieds dans le tapis avant ça. Il y a le championnat de 64. Et 64, c'est très loin. Souvenez-vous, la Coupe du Monde 2006, ils font un super premier tour. Je crois qu'ils battent l'Ukraine sur le premier match 4-0. On dit ça y est, c'est bon, c'est la leur. Résultat, ils se prennent les pieds dans le tapis contre la France en 8e. Et c'était l'histoire de cette équipe d'Espagne. Et elle a vraiment vaincu le signe indien en 2008. Et puis après, il y a évidemment eu 2010 et 2012. En 2012, je suis un peu plus réservé parce que leur parcours, c'est-à-dire le quart contre la France, bon, il est autant pour Laurent Blanc que pour l'équipe d'Espagne. La demi face au Portugal, ça va sur but, mais il y a quand même ce chef-d'œuvre final dont vous parliez. 4-0, il n'y a pas une finale internationale qui a été aussi. C'est-à-dire avec un tel écart de 4 buts, ils mettent vraiment l'Italie aux abois. Et c'est une équipe qui joue, je ne vais pas dire en marchant, parce que ce serait insultant pour l'Italie et même pour l'Espagne, mais quand même, on sent qu'elle est sûre de sa force et qu'elle peut faire ce qu'elle veut quand elle veut. Et c'est peut-être aussi ça le propre des grandes équipes qu'on a citées à un moment, c'est d'un moment de maintenir leur destin en main et être sûr de leur force pour le coup. Pourrais citer d'autres champions d'Europe. Je ne sais pas si vous avez hésité avec d'autres équipes, parce qu'il y a des équipes qui passent complètement la trappe. Alors, je vais parler de la Grèce 2004.
Celui qui est certainement pas le moins fort, mais qui est peut-être un des meilleurs souvenirs, c'est évidemment le Danemark 92. Ouais. C'est une histoire formidable. Et c'est marrant, le football et le sport de haut niveau, parce qu'on ne gagne pas toujours quand on doit gagner, mais avec sa meilleure ou sa plus belle équipe. Ouais. On pourrait parler de l'Olympique de Marseille qui, à mon avis, a été champion d'Europe en 93 avec pas la moins bonne de ces équipes de cette période-là, mais moi je préfère l'équipe de 90. Celle de 91 était probablement plus complète. Et Danemark, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est une équipe formidable dans les années 80. Quand ils arrivent en 86, ils sont quasiment favoris de la Coupe du Monde avec l'URSS en Europe. C'est les deux équipes qui sont vraiment les plus dominatrices du moment. Mais ils n'ont jamais su aller au bout pour tout un tas de raisons. Et en 92, ben voilà, ils ne devaient même pas être là et ils gagnent. Et je trouve que c'est aussi le triomphe d'une certaine insouciance. Alors oui, le football a changé depuis presque 30 ans, mais malgré tout, à l'époque, ces compétitions-là, on les préparait sur le bout des doigts. C'était vraiment... Il y avait beaucoup de minutie dans la façon d'aborder une compétition comme ça. Eux, ils sont arrivés en touriste, ils ont gagné. Et je trouve que c'est aussi un rappel qu'il faut garder une forme d'innocence et de tranquillité par rapport à ce genre de rendez-vous. C'est jamais une mauvaise chose. Et les Danois, au-delà du fait qu'ils avaient de très bons joueurs de football, je pense qu'ils sont aussi champions d'Europe parce qu'ils arrivent sans aucune pression, sans aucune intention, sans aucune ambition particulière. Et ça les a beaucoup aidés.
C'est presque l'anti-champion d'Europe par rapport à ceux qu'on a présentés juste avant, c'est-à-dire des équipes qui sont calibrées et qui viennent évidemment pour ça. Et eux, ils arrivent à insouciants, qui sont invités, donc ils y vont.
puis se retrouve à gagner le championnat d'Europe trois semaines après, ce qui est exceptionnel. Shérif, tu as envie de citer notre équipe ou
Je vais revenir quand même sur l'équipe de France de 84 parce que, le match contre la Belgique, le 5-0, c'est vertigineux, quoi. Ce Platini de 84, elle était 84. Non, mais on le répète toujours, ça fait vraiment idiot, mais bon, voilà, c'est 9 buts, 3 de la tête, 3 du gauche et 3 du droit. Il met les coups francs comme nous on respire ou comme on éternue. Et. La domination d'un joueur sur le foot mondial sur une période assez courte, hein, quand même. Il n'a pas dominé la planète foot parce qu'après, il y avait Maradona quand même. Il y avait des types comme Zico. Le voir en direct, et c'est le phénomène Platini. Je l'ai souvent raconté à des plus jeunes que moi. C'est tu regardes l'équipe de France jouer, alors que ce soit en match amical ou que ce soit en compétition. De 76 à 87, hein, sur l'équipe de France. Tu regardes l'équipe de France à chaque fois qu'elle joue, tu t'attends à ce que Michel marque, et Michel marque. Et cette ponctualité dans les rendez-vous fait que c'est exceptionnel. Et puis, voilà, c'est à partir du moment où l'équipe de France est capable de gagner un titre, la gagne va s'installer dans le football français. Il faut rappeler qu'on a un football de club qui est lamentable. On a une Ligue des champions. En un siècle, j'allais dire, mais non, mais plaisant. En
60. Pas loin.
Mais par contre, en fait, notre équipe à nous, c'est le football français, c'est notre sélection nationale. Celle qui donne le là, celle qui a toujours eu les plus beaux résultats. Et en 84, il était temps que l'équipe de France gagne. Alors, sincèrement, au niveau émotionnel, parce que j'étais jeune quand même, les soirées européennes avec Michel Platini, c'était grandiose. Je sais que les Italiens, ils ont connu la même chose en 90. On a parlé des soirées, enfin des nuits de Toto. Voilà, tout un peuple qui est devant la télé, qui attend Toto et Toto il marque. Et là, bon, nous, en 84, c'était Michel. Et voilà, Michel était là, ponctuel au rendez-vous. Et bon,
ils ont... Et ce qui est fantastique, ce qui est dingue avec l'Euro de Platini, on parlait du but de Van Basten tout à l'heure qui est extraordinaire, mais entre guillemets, la finale ne se joue pas forcément là-dessus. Platini, tous ses buts sont décisifs. Hein. Il marque contre le Danemark au match d'ouverture alors que les Bleus sont vraiment accrochés. Après, il y a ces deux hat-tricks contre la Belgique et la Yougoslavie. Il marque, oui, il y a le doublé de Domer, oui, il y a la percée de Tigana. Et c'est quand même tout sauf un hasard. Si le mec qui est là à la 120e pour la mettre au fond, c'est Platini. Et puis après, il y a le coup franc contre l'Espagne avec la fameuse Arconada. Donc, ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Après, il n'était pas tout seul, bien sûr. Cette équipe, elle avait... Surtout, il y a plein de joueurs qui étaient au sommet de leur expression quand même, dont Platini. Et si on peut avoir qu'un seul regret, c'est qu'il n'y ait pas eu un Euro en 82 et en 86 avec une Coupe du Monde en 84. Parce qu'avant, il leur manquait en 82, il leur manquait un petit quelque chose. Ils avaient encore trop de naïveté. Et en 86, il y a des joueurs qui ont vieilli et il y a des joueurs qui jouent blessés. Donc, la 84, c'était le bon moment et finalement, c'est très bien comme ça. Oui, Platini n'a pas été champion du monde, mais un Euro à domicile quand même et avec ce niveau de performance et d'émotion, c'était fantastique à vivre. Et puis, ça a lancé tout le reste. En 98, ça part aussi de 84.
On fait constamment référence aux 13 buts de Fontaine en Coupe du Monde. Vous le disiez, 9 buts en championnat d'Europe, 9 buts en 5 matchs. C'est complètement dingue. Souvenez-vous en 2016, quand Griezmann met ses 6 buts sur une compétition qui fait 7 matchs, on se pâme parce qu'on dit que c'est formidable. Imaginez que Platini, il a fait mieux en moins de matchs. Donc, c'est exceptionnel. Il faut toujours se souvenir et revoir même les images parce que voilà, il y a ces deux triplés. Et comme tu l'as dit, Laurent, c'est des buts décisifs. Ce n'est pas le 7e but, le 8e but. C'est exceptionnel.
Non, puis ce qui est fou, c'est que l'Euro était à 8 à l'époque, il est passé à 16, il est passé à 24. Pour l'instant, son record tient toujours. Et ça montre bien quand même que Platini de cette époque-là, de cette année-là, c'était quand même vraiment... c'est une des plus grandes années faites par un footballeur, je pense, en 84. Celle de Platoche.
On aurait pu enchaîner par un Zidane Platini qui s'est plus fort, mais on va le garder pour une autre émission parce que je pense qu'il y aura à dire. Je pense qu'on pourra revenir avec le même casting à peu près sûrement pour en discuter. J'espère que ça vous a plu. On vous a donné un petit goût de notre championnat d'Europe qui n'aura pas lieu cette année, mais il faudra donc attendre l'année prochaine. Merci Shérif, merci Laurent d'avoir participé.
Vous pouvez retrouver cette émission sur Eurosport, évidemment, comme je vous l'ai dit, et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, je les répète, Apple Podcasts, Acast, Deezer, Spotify, Castbox et bien d'autres. Mettez-nous une note, 5 étoiles si possible, si vous a plu. Et mettez dans vos commentaires ce que vous avez pensé de l'émission et même votre championnat d'Europe préféré. Comme ça, on essaiera d'aller voir. Peut-être qu'on en reparlera dans une émission prochaine. Merci à tous, salut et à très bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.